diplomatique en cours.
I have a dream.
It's one small step for man.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir chers fidèles auditeurs de VOA Afrique, Eric Mandela Kiza avec vous. Bienvenue à tous dans l'Amérique et vous, Joselle Morissin sur la réalisation de cette édition. Guerre en Ukraine, l'enjeu de la diplomatie internationale face à la crise, c'est notre sujet de ce soir. 3 ans après le début de la guerre en Ukraine, les discussions sur la résolution du conflit prennent des tournures de plus en plus complexes, avec des acteurs mondiaux aux intérêts parfois divergents, alors que les États-Unis, sous la présidence de Donald Trump, cherchent une approche différente pour parvenir à une paix durable. L'Europe, à travers la France et le Royaume-Uni, insiste sur la nécessité de garantir la souveraineté de l'Ukraine. L'Afrique, quant à elle, bien que frappée de plein fouet par les conséquences économiques de cette guerre, semble se trouver en retrait dans cette diplomatie occidentale. Pourtant, certains leaders africains avaient tenté de jouer un rôle de médiation, mais dans quelle mesure l'Afrique peut-elle se faire entendre face à des enjeux géopolitiques majeurs et comment ces dynamiques influencent-elles la vision des relations internationales aujourd'hui? C'est ce que nous allons parler tout à l'heure avec nos invités. Je suis en ligne avec Calvin Dark, analyste américain, directeur et cofondateur de RC Communication, un centre de réflexion basé ici à Washington. Calvin, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue dans l'Amérique et vous. Calvin apportera donc son regard sur l'engagement américain et la politique de Donald Trump concernant l'Ukraine. Jean-Victor Nkolo, ancien fonctionnaire onusien attaché au bureau du conseiller spécial du secrétaire général pour l'Afrique, est avec nous. Bonsoir, monsieur Nkolo.
Bonsoir.
Merci, bonsoir. Merci de votre participation. Vous allez évidemment nous éclairer sur les mécanismes diplomatiques internationaux, la diplomatie de la paix et l'évolution du rôle de l'ONU dans ce conflit. Notre troisième invité, Ahmedou Ould Abdallah, directeur du Centre stratégique pour la sécurité du Sahel, ancien fonctionnaire de l'ONU. Monsieur Abdallah, bonsoir.
Bonsoir, et ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies.
Merci de votre précision. Vous allez donc analyser la place de l'Afrique dans cette crise et la manière dont elle a tenté de se faire entendre. Je vais commencer avec vous, monsieur Nkolo. La guerre en Ukraine a-t-elle modifié votre perception des alliances internationales et des rapports de forces mondiaux? L'ONU semble avoir un rôle marginal dans cette crise. Quelles sont les limites de l'action des Nations Unies face à un conflit d'une telle ampleur dans un contexte international, il faut le dire, polarisé?
Merci beaucoup et je salue d'abord tous les invités, notamment notre aîné qui a travaillé si longtemps aux Nations Unies en tant que secrétaire général adjoint. Non, la crise en Ukraine n'a en rien modifié ma perception du monde, du rôle des Nations Unies et du jeu du multilatéralisme, n'est-ce pas, que nous avons connu jusqu'ici. Ce qui a changé par contre, c'est que rien n'étant permanent, ce sont les alliances qui ont commencé à bouger, mais aussi le leadership ici et là qui a commencé à injecter sa propre vision du monde. Elle peut être une vision parfois manichéenne, elle peut être une vision parfois transactionnelle, elle peut être une vision parfois géopolitique ou idéologique. C'est ainsi que lors du dernier vote à l'Assemblée générale sur la condamnation de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les États-Unis se sont retrouvés dans le même camp que des pays comme la Corée du Nord ou d'autres pays qui habituellement étaient dans le camp considérés comme les ennemis des États-Unis. Donc les choses sont en train de bouger, les cartes sont en train d'être rebattues, mais ce qui se passe en Ukraine, en réalité, n'est que une sorte de réflexion, n'est qu'un écho de ce changement dans le monde. Est-ce que ce changement va durer? Parce qu'il y a la réalité des faits qu'il faut aussi considérer. L'histoire est parfois très dure et très violente. Là, on voit un jeune président ukrainien qui s'est retrouvé face au président des États-Unis, Donald Trump, et au vice-président des États-Unis, M. J.D. Vance, en train de tenir ferme par rapport aux intérêts de son pays, peut-être contre ses propres intérêts, mais il vous dira qu'il a tenu par rapport à sa propre vision, par rapport aux intérêts de l'Ukraine. Aujourd'hui, ça se passait en pleine Maison-Blanche. Donc ce sont des choses absolument extraordinaire qui se passe. Ce n'est pas le monde qui change, mais c'est l'injection que les personnalités, les pays, les camps, les idéologies et parfois même la religion injectent dans les affaires du globe.
Calvin, les États-Unis sous la présidence Trump semblent opter pour une diplomatie plus proche du Kremlin, mais est-ce un risque pour l'unité occidentale sur l'Ukraine et comment interprétez-vous la position américaine vis-à-vis de la Russie?
Oui, je crois que le mot diplomatie, c'est un peu différent chez Donald Trump, surtout après ce que nous avons vu il y a une heure dans le Maison-Blanche, la réunion chaotique entre Zelensky et Trump. Il est sorti de la Maison-Blanche sans firmer l'accord. Je crois que pour Donald Trump, nos relations avec nos alliés, c'est-à-dire en Europe, c'est pas une priorité parce que selon Donald Trump, nos alliés en Europe prennent l'avantage de l'Amérique depuis longtemps. Alors, pour les Américains, je dis traditionnels, ça c'est pas bon parce que il y a les liens historiques entre Amérique et Europe. Mais je crois que pour Donald Trump, ça ne pose pas un problème parce que selon lui, il veut se focaliser sur l'Amérique là aussi. Faire ce qu'il veut faire en Europe, peut-être parce que ce n'est pas nos affaires. Et je crois que ça, ce n'est pas bon pour les États-Unis d'Amérique, mais je crois que c'est une partie de l'objectif de Donald Trump. Il veut changer comment nous agirons avec nos alliés en Europe et avec nos ennemis du passé comme la Chine et la Russie.
Monsieur Abdallah, l'Afrique a tenté de jouer un rôle de médiateur, notamment à travers la mission de paix dirigée par 4 chefs d'État africains, dont à la tête l'ancien président sénégalais Macky Sall. Comment l'Afrique peut-elle s'affirmer davantage sur la scène internationale malgré ses défis internes?
Merci beaucoup et désolé si la communication risque d'être mauvaise. Premièrement, merci, c'est un sujet très important pour l'Afrique parce que l'invasion d'un pays par un voisin peut arriver dans tous les continents. Deuxièmement, je pense que l'Afrique a intérêt, à mon avis, à ne pas trop s'engager. Au-delà des principes de souveraineté nationale et territoriale, l'Afrique n'a pas intérêt à s'engager dans un conflit qui n'est pas le sien, au-delà des principes, je veux dire. C'est un problème entre Européens et Américains. La Chine elle-même est très prudente, l'Asie est prudente, l'Amérique latine est prudente. Nous avons intérêt en Afrique d'être prudents. Par principe, 65 pays africains ont voté pour la souveraineté territoriale, 17 se sont abstenus, d'autres n'ont pas pris part au vote. Je pense que nous ne devons pas surestimer notre rôle, ni au Conseil de sécurité, ni à l'Assemblée générale, où nos contributions financières ne sont pas plus de 2 à 3 % pour tout le continent. Donc la prudence en cette période de troubles et de tensions, gardons les yeux ouverts et les mains pour le moment dans les poches.
Guerre en Ukraine, l'enjeu de la diplomatie internationale face à la crise, c'est notre sujet de ce soir dans cette édition de l'Amérique et vous, Eric Manilakiza, avec vous au micro, Calvin Duck, Jean-Victor Kolo, Ahmedou Ould Abdallah sont nos invités. Gardez la ligne, nous revenons dans un petit instant.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Calvin Dirk, selon vous, quel rôle les États-Unis devraient-ils jouer pour mettre fin à la guerre en Ukraine? La politique de Donald Trump est-elle efficace pour garantir une paix est durable? Et Donald Trump a toujours dit qu'il voulait mettre fin à ce conflit.
Oui, je crois que la position des États-Unis devrait être un soutien pour nos alliés. C'est un président américain et il doit chercher la paix parce que nous avons la force militaire, la force diplomatique. Mais je crois que Donald Trump, ce n'est pas ses objectifs. Et je crois que ce qui va se passer, Donald Trump, il y a une raison pourquoi cet accord entre Ukraine et les États-Unis, c'était avant les discussions sur la paix. Parce que la priorité pour Donald Trump, c'est les avantages économiques pour les États-Unis. Alors, je crois que s'il n'y avait pas des avantages économiques pour les États-Unis, la paix en Europe entre Ukraine et la Russie, ce n'est pas une priorité. Et je crois que ça va être un poids sur tous nos efforts dans le monde, surtout en Afrique. Parce que si les alliés en Afrique, en Europe, ne sont pas une priorité pour Donald Trump au niveau sécuritaire, au niveau des échanges économiques. C'est sûr que nos alliés en Afrique, ce n'est pas une priorité. Et je crois que ça, c'est vraiment au centre du débat. Qu'est-ce que c'est les objectifs de Donald Trump? Et je crois que la prospérité de nos alliés, surtout en Afrique, ce n'est pas une priorité du tout.
Jean-Victor Collot, l'Europe veut être associé dans les négociations. Est-ce que le continent européen doit-il faire plus pour soutenir l'Ukraine ou peut-il compter sur d'autres acteurs pour assurer la paix durable?
L'Europe n'a pas le choix. L'Europe est sur le même territoire, sur le plan physique, sur le plan géographique, que la Russie. Et puis les États-Unis sont éloignés. Il y a une division physique importante. C'est l'océan, les océans qui séparent la Russie de l'Amérique. Alors, l'Europe n'a pas le choix parce que l'Europe a aussi l'histoire en tête. Si vous vous souvenez de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, et même des conflits plus récents, la parole tenue en diplomatie est une chose importante. La parole tenue n'est toujours pas tenue. Mais cependant, si les Européens ne font pas attention, eh bien, ils ont peur d'être un jour eux-mêmes envahis. Un pays comme la Pologne n'a pas le choix, parce que la Pologne a le poids de l'histoire. Et figurez-vous qu'en réalité, cette question de l'OTAN est un véritable leurre, parce que depuis que l'invasion russe en territoire ukrainien a commencé, en 2022, eh bien, le nombre de pays européens qui ont rejoint l'OTAN s'est agrandi. Et la frontière entre la Russie et les pays de l'OTAN s'est allongée. Donc, en réalité, l'Europe ne peut pas penser comme les États-Unis. Ils sont obligés, de par leur destinée, de par l'histoire, mais aussi de par les leçons apprises, parfois très durement, que c'est très difficile de gérer ces choses-là sur le seul plan transactionnel. Il faut, en mon humble avis, de véritables garanties de sécurité. Et je voudrais tout de même continuer en disant que pour ce qui est de l'Afrique, et pour faire honneur à ce qu'a dit tout à l'heure notre aîné, le secrétaire général adjoint, M. Abdallah, que l'Afrique ne doit évidemment pas, il avait raison, ne doit pas surestimer son poids, mais l'Afrique doit continuer à militer, à promouvoir pour un plus grand poids, pour une plus grande force. On ne peut pas non plus abandonner le consensus de Ezulwini qui demande que l'Afrique ait une plus grande place, une meilleure place au sein du Conseil de sécurité qui est l'instance qui est responsable de la paix et de la sécurité internationale. Ainsi, on comprend bien que l'Afrique ne peut pas fermer les yeux, se tourner ailleurs parce qu'on a bien vu sur le sol africain un début d'affrontement, un début de tension entre l'Ukraine et les Russes sur divers territoires de conflit, que ce soit des conflits latents ou des conflits chauds sur le sol africain. En d'autres termes, si vous ne faites pas la géopolitique vous fera.
Monsieur Abdallah, quel rôle l'Afrique peut-elle jouer dans la résolution de ce conflit? Une Afrique qui est affecté par la guerre en Ukraine, mais aussi il y a beaucoup de guerres sur le continent et l'Union africaine semble puissante. Allô?
Voilà. Oui, oui, j'entends. Merci. Moi, je suis d'accord avec ce qu'ont dit mes deux collègues. La Charte des Nations Unies, l'article 2, je crois, 7, non-ingérence, nous sommes entièrement d'accord. Sur le continent, nous avons des frontières fragiles, comme celle d'Asie centrale d'ailleurs, comme celle d'Amérique latine, c'est-à-dire des frontières artificielles, mais qui sont reconnues en grande majorité depuis l'indépendance. Nous devons être très sensibles à ce sujet. Et je suis d'accord avec ce qu'ils disent, qu'une violation peut entraîner un effet de contagion. Mais honnêtement, compte tenu de mon expérience, de mon âge, nous devons cesser d'être sur le front quand ça ne nous concerne pas directement. Oui, au respect des principes, mais les guerres qui ne nous concernent pas directement ou indirectement, nous devons faire très attention, ne pas être des partisans, des anciens combattants. Je crois que c'est entre pays, et le président Trump vient de le démontrer. À la surprise générale, il vote contre ses amis. Il a pris une décision contre ses alliés, d'où le déferlement des visites chez lui, à Washington. Et ceci est un signal pour nous tous, n'est-ce pas? Quelle est la position d'Amérique latine? Quelle est la position d'Asie? Quelle est la position du Moyen-Orient? Pourquoi nous, Africains, voulons être sur le front? Voilà ma question. Ce n'est ni par manque de courage, mais nous devons savoir notre poids et faire attention, tout en ne renonçant jamais au respect des principes parce qu'il y va de notre sécurité. Voilà ce que je peux dire.
Oui, Monsieur Abdallah, à l'heure où les tensions géopolitiques sont exacerbées, pensez-vous que les relations internationales connaissent un véritable bouleversement? Et si oui, en quoi cela pourrait-il redéfinir l'ordre mondial à l'avenir? C'est la même question que je vais poser aussi à Monsieur Nkolo et à Kevin Dak, mais avec vous d'abord, Monsieur Abdallah, si vous pouvez prendre 2 minutes.
Allô?
Allô?
Alors, je pense que cette question est, à mon avis, le fond du problème. Et mon impression, c'est que Trump et son entourage sont en train, en particulier Edmund Musk, en train de redonner. Je me demande s'ils ne sont pas en train de redéfinir, pas le sud global, mais le nord global, y compris la Russie, face aux anciens peuples colonisés. C'est-à-dire une alliance Amérique-Europe-Russie, même si la Chine veut rester, peut-être pas, je ne veux pas dire que c'est un truc ethnique, mais je me demande s'il ne faut pas penser à de nouvelles donnes et nous devons aller au-delà de Nord-Sud, ainsi de suite. Je me demande si on ne veut pas faire Washington, Moscou et éventuellement Bruxelles. Ils viendront. Et tout ça face à quoi? Face au Sud global. Je pense qu'il ne faut pas négliger cet aspect dans l'analyse de Trump. Et actuellement, le plus important pour moi, c'est quelle va être l'attitude de l'administration Trump vis-à-vis des Nations Unies. Dans son entourage et au Sénat, 2 sénateurs ont proposé de quitter les Nations Unies. La semaine passée, la future représentante des Nations Unies, des États-Unis aux Nations Unies, s'est déclarée, d'après la presse, plusieurs fois en faveur du retrait des États-Unis de l'ONU. Donc tout cela, ce ne sont peut-être que des hypothèses, mais nous, en Afrique, nous devons être vigilants et regarder quelles sont les possibilités, les hypothèses qui se présentent et donc nous retrouver, réfléchir pour prévenir toute surprise sur le plan diplomatique. Et je termine en disant, est-ce que le Nord n'est pas en train de faire un nouveau groupe de Jakarta de 77, c'est-à-dire Russie, Europe et Amérique, Canada malgré les ennuis, face au Sud global.
Calvin Duck.
Oui, je crois que, bon, moi je conseille les leaders de la société civile en Afrique et aussi les leaders politiques en Afrique. Et je partage le même conseil que je leur donne. Maintenant, il faut une réévaluation de l'approche pour l'Amérique. C'est-à-dire, il y a beaucoup de défis, beaucoup de challenges au-delà de l'Ukraine pour l'Afrique. Mais il faut se rendre compte que dans le passé, même s'il y avait des changements dans la Maison-Blanche, il y avait des choses continues. Il y avait des programmes, des partenariats. Mais on voit que ça, ce n'est pas le cas maintenant. Et alors, je crois qu'il faut surtout les leaders en Afrique qu'ils fassent une réévaluation de l'approche vers les États-Unis, de penser vraiment qui sont les autres partenaires, parce que je sais que si les partenaires en Russie, la Chine, ça va causer des problèmes s'il y a des propositions de partenariat avec les États-Unis. Alors, je crois qu'il faut se rendre compte que maintenant, dans la Maison-Blanche, il y a un président non traditionnel et il faut une nouvelle approche pour vraiment avoir des partenariats et la prospérité dans nos relations entre l'Afrique et les États-Unis.
Jean-Victor Nkolo, c'est la même question. À l'heure où les tensions géopolitiques sont exacerbées, pensez-vous que les relations internationales connaissent un véritable bouleversement? Et si oui, en quoi cela pourrait-il redéfinir l'ordre mondial à l'avenir?
Moi, je suis d'accord pour une redéfinition, mais attention, il faut surtout et avant tout, à mon avis, redéfinir les notions de périphérie et de centralité. Cette guerre en Ukraine est véritablement lamentable. Elle a tué beaucoup de gens. Là, l'invasion de la Russie a fait beaucoup de mal, non seulement aux Ukrainiens, mais aux Russes eux-mêmes. Mais quelle est la véritable centralité des mots aujourd'hui? Nous avons une guerre dans la partie de la région des Grands Lacs à l'est de la République démocratique du Congo qui a fait déjà des millions de morts. Les estimations vont entre au moins 6 millions de morts jusqu'à environ 18 millions de morts dans les dernières années. Alors comment nous en Afrique, nous pouvons résoudre nos propres problèmes avec, comme le rappelait si bien le secrétaire général adjoint M. Abdallah, comment pouvons-nous résoudre ses propres problèmes avec des frontières fragiles, avec des frontières héritées de la colonisation, si nous ne sommes pas d'accord, si nous ne croyons pas à un certain nombre de règles internationales que nous pouvons nous appliquer à nous-mêmes. L'organisation de l'unité africaine, devenue aujourd'hui l'Union africaine, est déjà assez âgée, elle a des dizaines d'années depuis sa création, depuis les années 60. Et alors, comment allons-nous faire avec la situation au Congo, la situation au Burundi, au Rwanda, au Kenya, au Soudan, au Sud-Soudan, dans beaucoup d'autres régions en Somalie,
aussi.
Si nous n'appliquons pas les règles. C'est donc important que les Africains restent, comme le disait M. Abdallah, tout à fait pas des anciens combattants, mais nous devons combattre pour notre propre intégrité, pour notre propre avenir. Sinon, la fragilité de nos frontières, le manque de l'état de droit ici et là, va avoir comme conséquence ce qu'on a maintenant dans certaines régions d'Afrique. Et c'est pour cela que je pense que un pays important comme le Rwanda commence à sentir le retour du bâton par rapport à cette question du Congo. Il y a des sanctions internationales qui sont en train d'être appliquées contre le Rwanda. Pourquoi? Parce que les Européens se rendent compte un peu tard, on dirait, enfin peut-être, qu'il y avait des lois, il y avait des règlements. On ne pouvait pas simplement laisser passer un certain nombre de choses. Parce que quelle que soit la mauvaise gouvernance dans un pays, ça n'autorise à aucun autre pays d'avoir des troupes dans ce pays-là où il y a la mauvaise gouvernance. C'est peut-être légitime, mais ce n'est ni justifié, ni justifiable. Donc les Africains doivent établir des règles, pour eux des règles auxquelles les Africains croient, et que les Africains se donnent les moyens à appliquer. Et cela n'aura rien à voir avec... Oui.
Merci beaucoup à Jean-Victor Nkolo. Je précise que le gouvernement rwandais a averti que les sanctions ne vont pas aider à régler ce conflit. C'était juste apporter cette précision. Merci à Calvin Duck, qui est analyste américain, Jean-Victor Nkolo, ancien fonctionnaire onusien, et Amédou Dabdallah, directeur du Centre stratégique pour la sécurité du Sahel Sahara. Merci Eric Manila qui a été avec vous. José Morissin a assuré la production. Je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.